Les mots de la culture, une émission proposée par Michel Théron.
Bonjour à tous. Je m'inspire dans cette série d'émissions sur la culture générale de mon livre « Comprendre la culture générale » paru chez Ellipse à Paris. Et j'en suis maintenant au troisième chapitre de cet ouvrage qui est intitulé « Le particulier et l'universel ». L'épigraphe de ce chapitre est une phrase de René Char « Épouse et n'épouse pas ta maison ». Alors d'abord, voyons la critique des coutumes et la défense de l'universel. Une culture est faite de représentations symboliques verbalisées sous forme de récits, de mythes, de fictions, d'images aussi qui souvent figurent ces récits, ces mythes et ces fictions, et de comportements, de conduites, hein, les gestes, les postures, les attitudes qui sont codifiées en traditions et coutumes. Alors, s'agissant des traditions ou coutumes elles-mêmes, il va de soi qu'elles ne sont pas toutes ipso facto respectables. La critique des traditions, opérée par le relativisme, se justifie parfois. Parfois, il est dommage qu'une culture soit fragilisée, et parfois c'est nécessaire. Il y a des traditions qui tirent peu à conséquence, d'autres qui sont principalement ridicules, d'autres dont la pertinence peut être discutée, et il y en a qui sont dangereuses. Par exemple, nous disons non en remuant la tête de gauche à droite et de droite à gauche. Un grec lèvera la tête de bas en haut. C'est l'opposition que faisaient aussi les latins entre adnuere et abnuere. Une coutume religieuse chez nous est de faire le signe, un monde chrétien, est de faire le signe de la croix en terminant à droite de la poitrine. Pour le catholicisme romain, hein. Mais un orthodoxe finira par le côté gauche qui est celui du cœur. Vous voyez, est-ce qu'il y a un meilleur geste de piété qu'un autre? Je n'en sais rien. Prenons le cas d'une coutume sociale. L'usage en Chine est de reconduire le plus rapidement possible la personne qui vient de nous rendre visite, pour lui éviter de perdre avec nous un temps qui par ailleurs lui est si précieux. Alors nous considérons ce comportement comme extrêmement impoli. Où donc est la vérité de la politesse, vous voyez ? Bon, nous bénissons ceux qui éternuent, d'autres ceux qui éructent, vous voyez, hein. Nous mangeons du cheval ou des grenouilles, choses qui font horreur à un Anglais. Les Chinois mangent du chien, vous voyez. Donc, nous mangeons du sang sous le nom de boudin, et cela ferait horreur à un juif ou à un musulman qui ne mange un animal que vidé totalement de son sang. Le sang doit être reçu par la terre selon les règles de l'abattage rituel. C'est la viande cachère en milieu juif ou halal en milieu musulman. C'est dans le Lévitique, dans la Bible juive, que l'on voit développer de telles prescriptions. Vous ne prendrez pour nourriture le sang d'aucun animal. Donc c'est le Lévitique 5-6, vous voyez. Il est évident que l'importance que l'on accorde à ces prescriptions alimentaires ne favorise pas la commensalité avec les représentants d'autres cultures. Et cela peut rendre la socialisation plus difficile, vous voyez. En revanche, vous noterez que si la liberté de comportement est plus restreinte, la liberté de commentaire des textes est plus grande chez les juifs que chez les chrétiens, hein. Et ceci compense sans doute cela. Le judaïsme est simplement une orthopraxie et non pas une orthodoxie. Il faut en judaïsme avant tout respecter les 613 mitzvot, les commandements, et à côté de cela, on peut penser ou même croire ce qu'on veut. Deux juifs, trois avis, dit un proverbe juif, hein. À la différence des chrétiens, les juifs se définissent eux-mêmes comme des observants, hein, de la loi, plutôt que comme des croyants. Alors, si l'on considère le champ infini des usages, des coutumes, des comportements prescrits, le vertige peut nous prendre, ainsi que le sourire et le désir de nous en émanciper. Pensons par exemple à la grande querelle qui s'élève dans Babylone, dans Zadig de Voltaire, entre ceux qui prétendent qu'il ne faut entrer dans le temple de Mithra que du pied droit, et ceux qui disent qu'on ne doit y entrer que du pied gauche. Alors Zadig tranche la question en sautant à pieds joints. En effet, qu'on entre dans un lieu sacré d'un pied ou de l'autre, qu'on soit chaussé ou déchaussé, la tête couverte ou non, quelle importance, vous voyez ? On se déchausse dans la mosquée, et on se couvre la tête si on est un homme dans la synagogue, au moyen de la kippa. Et au contraire, dans une église chrétienne, un homme se découvre, hein. Mais les femmes s'y couvraient la tête, naguère. Hein. La jeune fille juive montre ses cheveux, tandis que la femme mariée les cache. Sans doute, la première a-t-elle encore à séduire des hommes, à la différence de la seconde. Chez nous, le prêtre doit dire la messe tête découverte, sauf, nous dit-on, sauf dispense. Hein. Que se passerait-il, dirait un voltairien, s'il était enrhumé, vous voyez. À propos de sacré, de la notion de sacré, de lieu sacré, je pense que l'idée même de Dieu sacré, de lieu sacré, vous voyez, de lieu sacré, ou de terre sainte est extrêmement dangereuse. Que Dieu ait promis à son peuple telle ou terre n'arrange pas le conflit actuel au Proche-Orient, vous voyez. Notez par exemple que cette idée est absente de l'évangile selon Thomas, on lit dans le Logion 42, « Soyez passants », vous voyez. Bon, donc c'est le sacré finalement peut bloquer les comportements et les situations. Il y a sans doute un danger inhérent au phénomène même de la sacralisation. C'est pourquoi dans le bouddhisme zen, les écritures sacrées, loin d'être sacralisées, hein, peuvent être employé, nous dit Borges dans Qu'est-ce que le bouddhisme, aux fins les plus malpropres, vous voyez. Et aussi en Orient, le mandala, qui a demandé des jours à sa confection, est détruit aussitôt qu'achevé, selon la loi qu'on peut voir libératrice de l'impermanence qui sous-tend tout le bouddhisme. Donc il y a moins de sacré dans cette option, effectivement, puisque tout est destiné à passer et à disparaître. Alors, prenons le cas maintenant des coutumes barbares. Jusqu'à présent, j'ai parlé des coutumes un peu amusantes, contestables, bien sûr, hein, mais il y a certaines qui sont barbares, hein, inhumaines. Par exemple, si je prends l'exemple toujours de Zadig de Voltaire, la coutume du bûcher des veuves, hein, en Inde, il était d'usage pour une femme devenue veuve de ne pas survivre à son mari et de se brûler solennellement sur un bûcher. Alors Zadig, qui est un sage, hein, évidemment, il ordonne qu'il soit désormais défendu à toute veuve de se brûler avant d'avoir eu, en particulier, un entretien de durée déterminée avec un jeune homme. De ce jour, plus aucune femme ne se brûla en Arabie. Notez la malice de Voltaire. Hein, bon. Est-il rien de si respectable, disait Voltaire, ironiquement, qu'un ancien abus, hein. Respecter une coutume uniquement parce qu'elle est ancienne, c'est évidemment discutable, et l'apport majeur des pensées relativistes qui ont émergé à la Renaissance en Occident, j'en ai parlé lors des émissions précédentes, c'est d'avoir défendu l'homme et ses droits en général contre les conditionnements particuliers pesant sur lui, et qui souvent insulte la conscience humaine. Montaigne disait déjà que c'est mettre ses certitudes à bien haut prix que d'en faire griller un homme tout vif, vous voyez. Je viens de citer littéralement Montaigne. Peut-être pensait-il ici à l'exécution de Michel Servet, qui fut brûlé vif à Genève avec l'assentiment de Calvin pour négation de la Trinité. Et voyez à cet égard la phrase cinglante de Castelion à Calvin, « Tuer un homme, ce n'est pas défendre une doctrine, c'est tuer un homme ». Alors voyez que le relativisme est une arme au service de l'homme dont il faut élargir les droits. Il est un éveil de l'esprit, salutaire vers d'autres possibles. Il empêche la pensée de se figer, lui évite la stase et le monolithisme. Cela dispense d'être psychorigide, vous voyez. Alors, on va voir sur quoi repose justement cette attitude. Il s'agit de la raison. Alors, la raison universelle. Pour l'Occident moderne, la raison est l'honneur de l'homme et le commun dénominateur de tous les hommes, la seule instance capable de les fédérer et de gommer leurs différences particulières ou, comme on dit, leurs idiosyncrasies. Vous voyez, on peut dire de la raison ce que Victor Hugo disait de l'amour maternel, chacun en a sa part et tous l'ont un entier. Et Montaigne parlait de l'empreinte de la raison universelle en tout homme non dénaturé. Au siècle suivant, Descartes, au début du discours de la méthode, qui est un texte fondateur, nous dit que le bon sens est la chose du monde la mieux partagée. Par le bon sens, il entend bien sûr la raison. Alors c'est la raison qui va fonder une morale plus large que toutes les traditions locales qui sont très étroites. Descartes veut tout passer à son crible, au crible de la raison, y compris la morale, et se déprendre de tous les conditionnements et de toutes les intégrations mentales qui nous ont été imposées. Nous avons été enfants, nous dit-il, avant d'être hommes. Alors il y a là sans doute une réaction objective de Descartes contre les guerres de religion immédiatement antérieures au siècle précédent. Donc Descartes incarne le second aspect de la culture, la Bildung, la formation, alors que le premier aspect c'est le fait d'accepter aveuglément l'héritage qui nous est transmis, ce que les Allemands appellent Kultur. Cette bipolarité est essentielle, j'ai déjà souligné son importance. Alors, il pourra donc exister une morale universelle fondée sur la raison. Je pense à la raison pratique de Kant. Raison pratique, ça veut dire la raison qui joue son rôle dans la praxis, dans l'action. L'impératif moral, pour Kant, est catégorique, il vaut pour tous, il est le même pour tous. Cela veut dire que l'homme en général l'emporte sur les hommes divers. Voici ce qu'on lit dans les fondements de la métaphysique des mœurs. « Agis de telle sorte que la maxime de ton action puisse être érigée en règle universelle, vous voyez ?»« Et agis aussi de telle sorte que tu traites autrui en sa personne, jamais comme un moyen, mais comme une fin, vous voyez ?» Bon, alors c'est du XVIIIe siècle que date l'idée des droits de l'homme. Il faut penser par exemple à l'idéal maçonnique de cette époque, à l'idée de fraternité universelle qui le sous-tendait. Voyez par exemple l'opéra de Mozart « La flûte enchantée » qui est tout imprégné de cet idéal. Et la Déclaration universelle des droits de l'homme, dans le même esprit, a été officialisée en 1948. Bon, mais cette raison, finalement, n'a pas été omnipotente tout le temps. Pourquoi ? Parce qu'on est revenu à l'enracinement et aux traditions, où on a désiré y revenir. Contre l'universalisme de l'humanisme occidental, de Montaigne aux Lumières, et contre l'homme rationnel et abstrait classique, le romantisme, d'abord allemand, a développé l'idée de Volksgeist, ou esprit du peuple. Donc c'est une idée qui consiste à défendre les particularismes, le patrimoine qu'il faut préserver, ou les racines qu'il faut retrouver. Ce sera la forêt, par exemple, qui incarnera pour l'âme germanique la liaison aux racines contre la modernité, modernité entre guillemets. Voyez par exemple le livre d'Ernst Jünger, Traité du rebelle, ou Le retour aux forêts. Voyez encore l'appel de la forêt de Jack London, The Call of the Wild. Alors il est tentant de vouloir s'aventurer dans ce territoire-là, take a walk on the wild side, comme on disait naguère. Et la forêt, comme je l'ai déjà souligné, implique une certaine sauvagerie, puisque Silvaticus, sauvage, est de la famille de Silva, qui veut dire forêt. Donc les valeurs plus étroites ou directement émotionnelles sont mises en avant. Ce sont des valeurs qui ne sont pas élargies par la raison. Alors est réapparue en Occident une pensée traditionnaliste ou de culture des traditions. Et à nouveau donc, Kultur contre Bildung, vous voyez. Alors, cependant, toutes les traditions particulières, tous les idiotismes culturels sont-ils à respecter sans examen ? Aujourd'hui, l'Occident, en cette affaire, a mauvaise conscience. Pourquoi ? Parce qu'il a voulu, pendant longtemps, imposer sa propre culture aux autres. Il a été expansionniste, il a été missionnaire, il a été colonisateur, et maintenant, par réaction, il est tenté d'admettre comme culturel, sans plus les discuter ou les passer au crible de la raison, des pratiques locales qui sont parfois tout à fait barbares. Donc l'Occident est passé d'une totale bonne conscience et d'un parfait manque de scrupules, lorsqu'il a exporté avec autorité son propre modèle culturel aux populations qu'il a colonisées, avec prosélytisme, il est passé de cette bonne conscience à l'excès inverse. Cet excès inverse consiste à tout admettre et à tout accepter au nom d'un relativisme et d'un culturalisme généralisé. Je pense que l'Occident a pu, comme dit le proverbe anglais, jeter le bébé avec l'eau du bain. Voyez ce que dit Lévi-Strauss dans Race et Histoire. Le barbare est celui qui croit à la barbarie. Bon, Montaigne déjà disait « Chacun appelle barbare ce qui n'est pas de son usage ». Mais l'orientation des deux esprits est très différente, puisque Montaigne, après, reconnaissait cette empreinte de la raison universelle en tout homme non dénaturé. Alors, la phrase de Lévi-Strauss, de l'anthropologue Lévi-Strauss, elle est juste et généreuse dans son principe. Le barbare est celui qui croit à la barbarie. Elle appelle au métissage culturel. Mais aussi, je pense que cette formule est dangereuse. En effet, une chose est de critiquer l'ethnocentrisme occidental, son impérialisme culturel, les méfaits de la colonisation, etc. Et autre chose, c'est de postuler l'équivalence généralisée des coutumes et des usages. Et c'est à quoi, malheureusement, mène un certain culturalisme contemporain. Bon, prenons un exemple. Comment, au nom de la culture locale ou de la pluralité des cultures, toutes étant finalement posées comme équivalence, comment admettre par exemple l'excision telle que se pratique par exemple en Afrique, L'excision, comme aussi la circoncision, maintiennent chacun dans son sexe en le fermant, en ôtant à chaque sexe ce qui peut rappeler l'autre, On ne conjure pas dans ces pratiques la malédiction de la sexuation, qui vient du latin, sexe vient du latin sécaré, qui veut dire couper. Et on accentue au contraire la coupure, la séparation entre les deux sexes. Et cela fait regretter, bien sûr, cette réunification androgynique de l'être, dont certains rêvent. Par exemple, l'évangile selon Thomas appelle de ses vœux le fait que l'homme se fasse femme ou la femme se fasse homme, par exemple. Alors, autres exemples. Comment, au nom des coutumes, des usages en vigueur dans une culture, admettre les mariages forcés et aussi les crimes d'honneur dont sont victimes celles qui refusent les mariages forcés, ou bien encore les victimes innocentes d'un viol? Bon, une femme violée n'est pas déshonorée, c'est son agresseur qui est déshonoré. L'honneur tient à ce que l'on fait soi-même, et non pas à ce que l'on nous fait. C'est l'agresseur criminel qui se souille, et non pas la victime, vous voyez. Donc là, il y a quelque chose d'archaïque qui renvoie à une vision machiste. On considère la femme comme une propriété de l'homme, un territoire sur lequel les autres hommes ne doivent pas empiéter, mettre la main. Et donc c'est quelque chose d'assez, non seulement d'assez, mais de totalement barbare. Ça m'a toujours frappé, cette idée du déshonneur d'une femme. Je crois qu'il y a une pièce de Pagnol où on nous dit l'honneur c'est comme les allumettes, ça ne sert qu'une fois. Eh bien, je pense que c'est le personnage qui prononce cette phrase qui doit être mise en question. Ce n'est pas Pagnol lui-même, mais il me semble que on n'est pas perdu, s'agissant d'une femme, perdu d'honneur, perdu de réputation, etc., si l'on a été victime de ce type d'agression. Alors on pourrait s'en tenir aussi dans un exemple moins probant peut-être, à la signification, moins probant, moins prégnant je dirais, à la seule signification symbolique aliénante de la pratique consistant à admettre le port du voile islamique dans les lieux publics ou dans une école laïque chez nous. Hein. Bon, mais je pense à ce que dit Elisabeth Badinter. La tolérance, dit-elle, s'est retournée contre celle-là même, les femmes mêmes qu'elle était censée servir hein, ou qu'elle pensait aider. Hein. Elisabeth Badinter, elle n'est pas du tout culturaliste, elle est universaliste. Hein, et elle est tout à fait dans la problématique que j'analyse maintenant. Hein. On peut penser qu'après avoir orgueilleusement prétendu à l'hégémonie culturelle, l'Occident tombe maintenant dans l'excès opposé et il pêche d'être trop timoré. Ainsi, Alain Finkielkraut, dans La défaite de la pensée, a vu naguère dans l'homme occidental un zombie face aux fanatiques incarnés par les fondamentalistes ou intégristes du tiers-monde. C'est le titre d'un de ses chapitres, Le zombie et le fanatique. Hein. Prenons le cas de la tolérance. Alors, l'ouverture aux autres ne doit pas entraîner la faiblesse. Hein. Jésus, par exemple, n'était pas tolérant, au sens où on peut l'entendre aujourd'hui. Il ne tolère pas le péché de la femme adultère, il pardonne à cette femme, ce qui est tout différent, hein. Et il ajoute, et c'est essentiel, va et ne pêche plus, hein. Par exemple, on dit que le pape François admet l'homosexualité, mais non, qu'est-ce qu'il a dit simplement? Il a dit, qui suis-je pour la condamner? Il n'a pas dit que c'était une bonne chose, vous voyez? Bon, donc il faut être bien précis sur les termes. Le christianisme enseigne que s'il faut aimer le mal, lapsus, hein, s'il faut aimer le méchant, il faut haïr le mal, hein, il faut donner à celui qui fait le mal la possibilité de se repentir, de se racheter, mais il faut lutter de toutes ses forces contre le mal. Jésus, qui était pourtant non violent, a été jusqu'à s'emporter très violemment contre les marchands du temple et à les chasser du temple à coups de fouet. On dit qui aime bien châtie bien, qui bene amat bene castigat. Attention, cette phrase veut dire qui aime comme il faut aimer, châtie comme il faut châtiller. Hein. Il y a bene qui veut dire de la bonne façon et non pas multum qui voudrait dire beaucoup. Hein. Alors il y a en effet différentes façons d'aimer et la meilleure façon d'aimer n'est peut-être pas celle qui ferme les yeux, mais celle qui implique l'exigence. Hein. Voyez ce que dit Alceste dans Le Misanthrope de Molière. Plus on aime quelqu'un, moins il faut qu'on le flatte, vous voyez. Bref, je dirais qu'il faut rester toujours très ferme sur les principes. Et alors qu'il faille en certains cas faire passer les droits de l'homme en général avant les pratiques particulières ou les idiosyncrasies culturelles, c'est la leçon positive de tous les humanistes occidentaux. Et cette leçon, on a tendance aujourd'hui à l'oublier. Julien Benda appelait cela la trahison des clercs, cet oubli de l'universel, et Alain Finkielkraut n'a fait que développer les idées de Benda dans sa défaite de la pensée. On se reportera aussi à la France byzantine du même Benda, où sont dénoncées la tyrannie de l'affect à l'époque moderne et l'oubli de la raison, la fin de l'idéal des Lumières. S'élever vers l'universel, c'est toujours le signe d'une plus grande largeur d'esprit, d'une plus grande intelligence du cœur. Pensez par exemple à Antigone, qui préférait les valeurs plus larges de l'amour à celles plus étroites et valeurs d'exclusion de la haine, incarnée par Créon, figure de l'État local. L'enseignement de l'Évangile plus tard sera le même, vous voyez. Alors on demandait à Socrate d'où il était. Il répondit, non pas je suis d'Athènes, mais je suis du monde, voyez. Et Épictète aussi se disait et voulait citoyen du monde. C'est le sens du mot cosmopolitisme. Hein. L'élargissement du cœur, le rationalisme définissent la grande tradition humaniste où l'Occident a achevé sa culture. Et tout cela s'oppose au chauvinisme, à la xénophobie culturelle, voyez. Et il est bien vrai que ceux qui sont nés quelque part, comme le dit Brassens dans une de ses chansons, ont souvent l'esprit étroit. Montesquieu le dit très bien dans ses cahiers, belle phrase, je la lis en entier. Hein. Si je savais quelque chose qui me fût utile et qui fût préjudiciable à ma famille, je la rejetterais de mon esprit. Si je savais quelque chose utile à ma famille et qui ne le fût pas à ma patrie, je chercherais à l'oublier. Si je savais quelque chose utile à ma patrie et qui fût préjudiciable à l'Europe, ou bien qui fût utile à l'Europe et préjudiciable au genre humain, je la regarderais comme un crime. Alors vous voyez, magnifique phrase, hein? C'est le contraire du nationalisme et du traditionnalisme étroit ou de la préférence nationale des programmes politiques d'extrême droite d'aujourd'hui. Ces programmes nous disent « j'aime mieux mes filles que mes nièces que mes voisines que des inconnus et les inconnus que mes ennemis ». Vous voyez ? Donc il y a la xénophobie, haine du métissage, diabolisation de l'autre, de celui qui est différent, autant de traits d'un esprit replié sur lui-même, de stase, comme on dit en psychologie, ou de stagnation psychique. Alors nous creuserons encore et développerons ce thème, hein, la dialectique du particulier et de l'universel, lors de la prochaine émission. Rendez-vous à la prochaine émission. Au revoir à tous.
Retrouvez Michel Théron sur son blog www.michel-théron.fr.